VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Ouagadougou, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. RCA, l'ONG Human Rights Watch a recensé les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par les groupes armés en Centrafrique entre 2014 et 2017. Et ce, dans un rapport paru aujourd'hui en amont de l'ouverture de la Cour pénale spéciale, la CPS à Bangui, qui doit juger ces crimes. Au total, 566 meurtres de civils au cours d'attaques d'éléments armés sont documentés dans le document préparé par l'ONG de défense des droits humains basé à New York. RDC, un collectif d'ONG congolaise du Kasaï, accuse Kinshasa et l'ONU de légèreté dans la gestion de la crise sécuritaire et humanitaire dans le centre du pays. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Ces ONG congolaises reprochent au gouvernement d'avoir réservé un traitement non proportionnel, léger et moins efficace de la crise sécuritaire et humanitaire créée par des violences et déplorent que l'insécurité persiste dans la région du Kasaï. Ces organisations accusent l'ONU et ses agences qui s'enlisent dans des études et des procédures anachroniques avant d'apporter une moindre assistance d'urgence aux milliers de victimes qui croupissent en forêt ou en brousse. Les femmes et les enfants sont exposés aux conditions inhumaines, précisent les mêmes organisations. Selon l'Église catholique, des atrocités ont causé la mort de plus de 3000 personnes et fait plus d'un million de déplacés. L'Église a aussi identifié 30 fosses communes, tandis que l'ONU en a dénombré 42. La MONUSCO a annoncé le déploiement imminent de deux compagnies de casquets bleus sud-africains et ghanéens pour renforcer le bataillon pakistanais déjà sur le terrain.
Crise burundaise, quatre organisations de la société civile, dont la plupart sont en exil, ont demandé le mois dernier au médiateur régional de fixer de nouvelles échéances pour le dialogue inter-burundais. Cet appel fait suite au constat d'échec de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, qui avait promis de conclure les pourparlers inter-burundais au mois de juin. Pour sa part, le CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi, estime que ces pourparlers n'ont plus de raison d'être, tandis que l'opposition constate que le médiateur a presque jeté l'éponge. De Bujumbura, le compte-rendu de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Selon une correspondance adressée au médiateur Benjamin Mkapa, écrite par les organisations Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, au LUCOM en sigle, la campagne contre la vie chère, l'Organisation pour la transparence et la gouvernance et le Mouvement citoyen pour l'avenir du Burundi, ces organisations soumettent des inquiétudes relatives à la période projetée des pourparlers extérieurs inter-burundais qui pourraient ne pas être respectés. Pour le CNDD-FDD au pouvoir, le dialogue extérieur n'est plus d'actualité. Selon Évariste Ndayishimiye, le secrétaire général de ce parti, la paix et la sécurité sont déjà revenus au Burundi. Le médiateur n'a plus donc de rôle à jouer.
L'objet de ce dialogue était d'abord de réconcilier le peuple qui était dispersé à cause de la crise qui a été créée par certains détracteurs dans ce pays. Il fallait remettre des esprits en place. Il fallait que les citoyens se réconcilient. Il y a eu un retour massif des Burundais qui étaient à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous avons beaucoup de sujets liés à un dialogue qui nécessite un facilitateur. Faute d'objets, on n'agit pas.
Zenoni Mourona, du parti de l'opposition Parena, parti pour le redressement national. Les problèmes dont les Burundais font face n'ont pas encore été résolus. Tous ces problèmes rencontrés sont à mettre au dos du gouvernement burundais, raison pour laquelle le médiateur semble avoir jeté l'éponge.
Dès lors que les chefs d'État n'ont pas fait de directive aux facilitateurs, ils ne peut plus convoquer une session de dialogue de son propre initiative. Il a remis en quelque sorte le mandat. Les blocages, il a dit que le parti au pouvoir était entièrement d'accord pour le dialogue, le gouvernement aussi, mais les actions montraient le contraire. Quand une partie met les bateaux dans les roues du facilitateur, il ne peut que déposer un facilitateur. Ce n'est pas un combattant, il ne combat personne.
En décembre de l'année dernière, l'ancien président tanzanien s'était engagé à arriver en juin de cette année à la conclusion d'un accord entre le gouvernement et son opposition pour régler la crise née du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, contesté par une partie de l'opposition en avril 2015. Des centaines de personnes ont déjà été tuées et des dizaines de milliers d'autres contraints à l'exil. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, 16 milliards de francs CFA pour les jeunes sur une période de 3 ans. C'est la somme engagée par le gouvernement burkinabé dans le cadre de son programme d'autonomisation des jeunes et des femmes. Un projet qui s'adresse aux jeunes et femmes scolarisés ou pas dans les villes et dans les campagnes. Bamary Ouattara est le secrétaire général du premier ministère burkinabé.
L'accès au financement sera plus facilité et les taux d'intérêt appliqués seront plus abordables. Par exemple, les personnes vivant avec handicap bénéficieront de ce financement avec un taux zéro. Donc, ils rembourseront le capital qu'ils auront reçu sans intérêt. Les jeunes et les femmes, il leur sera appliqué un taux de 1%. Pour ce qui concerne les financements du FAPE qui va être dédié aux jeunes diplômés d'université, là, le taux d'intérêt sera de 2%.
Bamary Ouattara, secrétaire général du premier ministère du Burkina Faso. Afrique de l'Ouest, toujours au Sénégal, Dakar, la capitale, fait face à une grave pénurie d'eau depuis plusieurs semaines, situation qui serait due à des travaux de raccordement de la Sénégalaise des eaux, la SDE. Il y a aussi le problème d'une demande plus forte que l'offre. Résultat, des milliers de Sénégalais se retrouvent ainsi privés d'eau chaque jour, nous dit de Dakar notre correspondant Sedina Abagay.
À Grand Dakar, un quartier populaire de la capitale sénégalaise, le liquide précieux ne coule presque plus, comme l'indique Awa Cissé.
C'est pénible. Ça fait déjà 2 mois qu'on n'a pas d'eau. Nous sommes obligés de nous réveiller très tôt, vers 3 heures du matin, pour pouvoir faire des réserves. Il faut parcourir de longues distances avant d'en trouver.
Au-delà du déficit de production, les populations doutent de la qualité de l'eau. Pour Ndaye Thiam, les autorités doivent rectifier le tir.
Les temps sont durs, nous peinons beaucoup à accéder à l'eau potable pour boire ou pour cuisiner. Nous avons vraiment besoin d'aide. Quand l'eau arrive enfin, nous craignons de tomber malade en la consommant parce qu'elle est rougeâtre et sale. Tout le monde n'a pas les moyens d'installer des filtres à eau chez soi. La situation devient plus qu'alarmante et c'est le moment d'agir.
Le ministre de l'Hydraulique a annoncé le démarrage de plusieurs projets pour résoudre ces problèmes. De son côté, la Sénégalaise des eaux s'active pour combler le déficit en eau dans les meilleurs délais. Pour le moment, les autorités déploient quotidiennement des camions-citernes pour ravitailler certains quartiers en eau potable et soulager la population. Sidina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
En Afrique du Nord, le Maroc se félicite des décisions relatives au Sahara occidental prises par l'Union africaine à son 29e sommet ordinaire qui s'est terminé hier à Addis Abeba, en Éthiopie. Le point avec John Lindon.
Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine, s'est dit hier très satisfait. Le Maroc participait à son premier sommet depuis sa réadmission au sein de la famille africaine après 33 ans d'absence. Monsieur Bourita s'est félicité d'avoir réussi à influencer l'écriture d'un rapport de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour que soit supprimé le passage qualifiant le Sahara occidental des territoires occupés. Les chefs d'État africains ont adopté une résolution appelant à apporter le soutien approprié au secrétaire général de l'ONU pour résoudre le différend du Sahara occidental. Cette résolution, selon le ministre, reconnaît le leadership de l'ONU et que la gestion du dossier est à New York. Le royaume chérifien avait quitté l'organisation panafricaine en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Front Polisario au Sahara occidental, un territoire que Rabat considère comme une partie intégrante du royaume.
Et pour terminer, au Proche-Orient, plus de 6000 fonctionnaires de la bande de Gaza vont devoir prendre une retraite anticipée. C'est ce qu'a annoncé mardi l'autorité palestinienne, mesure qui s'inscrit dans le cadre d'une épreuve de force avec le Hamas. Abdourahmane Dia.
Tarek Rishmawi, porte-parole de l'autorité palestinienne, a annoncé que 6150 employés des services publics seront mis à la retraite anticipée. Il accuse le Hamas d'avoir fait échouer toutes les tentatives de réconciliation. Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a qualifié cette décision d'immorale et d'inhumaine. La prise de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza en 2007 a été suivie par une quasi-guerre civile avec le Fatah de Mahmoud Abbas. Cependant, l'autorité palestinienne a continué à payer les salaires des fonctionnaires de la bande de Gaza, mais a réduit leur montant au début de l'année. Le mois dernier, l'autorité palestinienne a cessé de payer à Israël la facture d'électricité de la bande de Gaza, ce qui a limité à 2 heures par jour la fourniture du courant avant que l'Égypte ne commence à fournir du fuel.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.